Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Est-ce le prix à payer pour pouvoir ressortir de chez soi? Pour éviter une nouvelle vague virale. Avec le déconfinement, tous les pays européens réfléchissent à des applications de traçage sur nos portables pour suivre et prévenir les gens que nous rencontrons si l'un de nous tombe malade. Mais quel dispositif employer? Faut-il centraliser les données ou laisser la main à Apple et Google? En Allemagne, le débat a été violent. À Berlin, Julien Méchaussi.
C'est une véritable vague de critiques à laquelle a dû faire face le gouvernement d'Angela Merkel. Jusqu'à la fin avril, Berlin misait sur une application développée par une centaine de scientifiques européens et qui prévoyait un stockage des données sur un unique serveur central. Et c'est bien cette centralisation des données qui a fait naître de fortes inquiétudes au sein d'une population traditionnellement très attachée à la protection de ces données. Il serait alors devenu très facile pour les autorités de récupérer ces données à des fins de surveillance généralisée. Impensable dans un pays toujours marqué par la dictature communiste et le national-socialisme. Après plusieurs semaines d'atermoiement, la volte-face est complète. L'application de traçage de porteurs du coronavirus sera désormais décentralisée. En d'autres termes, les données des utilisateurs seront sauvegardées seulement sur leur propre téléphone. Un virement salué par Henning Tillmann, membre du collectif D64, un centre de réflexion sur les outils numériques à l'origine d'une lettre ouverte très acerbe adressée au ministre de la Santé.
À partir de là, on peut dire aux gens qui ont peur ou qui s'opposent à cette application et dénoncent le début d'une surveillance à grande échelle, regardez, seule une quantité minimale de données est sauvegardée. Cette transparence est primordiale pour que les gens aient confiance, d'autant plus que le principe de cette application ne peut fonctionner que si entre 60 et 70% de la population l'installe sur son téléphone.
Transparence et confiance, des mots qui prennent de plus en plus d'importance dans un pays confronté à une montée de rassemblements de citoyens qui s'opposent aux mesures de restriction pour enrayer la pandémie, comme à Stuttgart il y a une dizaine de jours. Parmi ces manifestants, nombreux sont aussi ceux à dénoncer une application de traçage comme un outil de surveillance massive. Patrick, berlinois et graphiste, salue ce choix d'un stockage décentralisé.
Ça ne me poserait pas de problème de télécharger cette application, parce qu'on sait désormais que la sauvegarde de ces données ne se fera pas de manière centralisée. Et puis, de manière générale, je ne fais pas attention à ce que deviennent mes données. Je ne lis pas en détail les conditions d'utilisation de chaque application.
L'Allemagne travaille désormais sur un projet d'application de traçage porté par Google et Apple. Les deux géants américains mettent actuellement au point des interfaces destinées à leur système d'exploitation de téléphones portables. Ces interfaces doivent permettre à la technologie Bluetooth de repérer et mesurer les contacts entre personnes saines et personnes infectées. Une approche saluée par Olaf, informaticien berlinois, mais qui fait naître d'autres inquiétudes.
Le gouvernement n'avait pas d'autre choix que de faire machine arrière. Mais si on pense que désormais ce sont Google et Apple qui vont décider de la manière dont l'État allemand va devoir créer cette application, il y a de quoi aussi être critique. Il ne faudrait pas oublier le revers de la médaille.
À cela viennent s'ajouter des difficultés techniques, comme le souligne Henning Tillmann.
Bluetooth
permet de relier deux appareils entre eux. On l'utilise par exemple avec des écouteurs ou des enceintes. C'est donc une technologie qui n'a pas été inventée pour mesurer des distances. Elle ne peut pas nous dire distance de 2 ou 10 mètres avec une personne infectée. Il s'agit uniquement d'une estimation via la puissance du signal. Et c'est là que se trouve le grand défi, arriver à calibrer la puissance du signal pour obtenir une estimation plus précise. Le contact a-t-il été proche ou alors était-il à une vingtaine ou une dizaine de mètres?
20 mètres weiter entfernt war oder 10 mètres weiter entfernt war.
Henning Tillmann met le doigt également sur de petites choses qui pourraient avoir une grande influence selon que le téléphone soit dans la poche arrière ou avant du pantalon. Selon sa direction, le Bluetooth enregistrera des données avec de fortes variations. Il est donc primordial d'informer la population au maximum, d'après Olaf.
Il faut que les gens s'y intéressent, se renseignent, qu'ils maîtrisent le fonctionnement de leur téléphone, sans oublier tout ce temps perdu au départ et une confiance qu'il va falloir regagner. Mais je pense que petit à petit, les gens comprennent l'importance de mettre à disposition une petite partie de ces données afin de surmonter cette pandémie.
Si le gouvernement se refuse pour l'instant à avancer une date de sortie de l'application, de nombreux experts évoquent la mi-juin prochain. Avec des premiers résultats sur son efficacité attendus au plus tôt à l'automne.
Et en Autriche, premier pays à avoir commencé à déconfiner, l'application est prête depuis le 25 mars dernier. Un modèle du genre, en tout cas sur le papier, Céline Béal.
Max Schrems l'a proclamé haut et fort dans tous les grands médias du pays. L'application de traçage autrichienne protège suffisamment les données de ses utilisateurs. Le champion national de la vie privée, qui s'est fait connaître en s'attaquant au géant Facebook, explique que l'application est moins dangereuse pour les libertés individuelles que de nombreuses autres que nous installons souvent sans y penser. WhatsApp, Tinder, Grindr, etc. L'application autrichienne s'appelle Stop Corona. Elle permet d'enregistrer les contacts que l'utilisateur a eus. S'il reste par exemple plus de 15 minutes à moins de 2 mètres d'une personne qui a également installé Stop Corona, les deux appareils enregistrent le contact de manière codée. Si un utilisateur est testé positif au nouveau virus, il peut le signaler et les concitoyens qu'il a côtoyés les deux jours précédents sont alertés de manière anonyme. Il y a aussi une étape intermédiaire pour les cas où une infection est suspectée mais pas confirmée. Pour inspirer confiance aux citoyens, le gouvernement a confié ce traçage numérique à la Croix-Rouge, qui a développé l'application. Et puis, à la différence de ce qui s'est fait dans d'autres pays, celle-ci ne fonctionne pas via le GPS, il n'y a pas de géolocalisation des personnes, et elle ne centralise pas les données collectées. Les listes de contacts sont uniquement enregistrées dans les différents smartphones, de manière codée. Une autorité centrale n'y a accès qu'en cas d'infection. Ce mode de fonctionnement a globalement recueilli l'approbation des organismes autrichiens spécialistes de la protection de la vie privée. Pourtant, il reste un bémol majeur pour le succès de Stop Corona. À ce jour, seulement 6% de la population l'ont téléchargé.
Pour ceux qui penseraient que la gestion de cette surveillance est purement du ressort des États, la Commission européenne est venue se rappeler à leurs bons souvenirs. Il y a bien des règles démocratiques à respecter, les explications de Laxmi-Lota.
Objectif, rompre la chaîne de transmission du virus, écrit la Commission européenne. Mais elle ajoute, à condition de pleinement respecter les règles de l'UE, à savoir le respect de la vie privée. Les applications devront donc se faire sur la base du volontariat des citoyens. Elles devront être approuvées par les autorités sanitaires du pays. Les données personnelles seront cryptées. Enfin, ces applications devront disparaître une fois qu'on n'en aura plus besoin. Ces données évidemment sensibles requièrent la garantie d'une forte cybersécurité, rappelle l'exécutif européen. La Commission met aussi en garde, selon une étude de l'Université d'Oxford, au moins 60% de la population doit utiliser l'application pour qu'elle soit efficace et permette de réduire la transmission du virus. D'ici le 31 mai, les États membres vont rendre compte des solutions mises en place. La Commission européenne publiera un bilan et des conseils d'ici la fin du mois de juin, selon les résultats obtenus. Il faut savoir par exemple qu'à Singapour, où le taux d'utilisation de smartphones est très élevé, le gouvernement informe qu'il y a eu un peu plus d'1 million de téléchargements de l'application de traçage. Avec une population de 6 millions d'habitants, ce n'est pas suffisant pour être efficace. L'enjeu est aussi pour les États de convaincre de l'utilité d'une telle application.
Ces garde-fous européens, la Pologne ne semble en avoir cure. 100 000 Polonais ont été placés chez eux en quarantaine avec une application de surveillance obligatoire, particulièrement peu respectueuse de leurs droits. Mais ce n'est pas vraiment un débat. À Varsovie, Thomas Giraudot.
Kwarantanna domowa, la quarantaine à la maison. Les Polonais contraints de rester chez eux doivent obligatoirement télécharger cette application. Ils reçoivent quotidiennement une notification à des heures aléatoires. Ils ont alors 20 minutes pour prendre un selfie et pour l'envoyer via l'application au service de police. La photo est géolocalisée et comparée au visage enregistré dans leur dossier. Si évidemment ils ne sont pas chez eux, que la photo ne correspond pas ou qu'ils n'en envoient pas, ils reçoivent une petite visite de courtoisie et l'amende peut être très salée. Pour avoir violé l'obligation d'isolement, un Polonais peut avoir à payer jusqu'à 30 000 zloty, 7 000 euros d'amende, soit environ 6 mois de salaire pour un travailleur de classe moyenne. Il risque même une peine de prison si lors de sa sortie interdite, il a mis en danger la santé publique. L'application Kwarantanna Domowa conserve aussi pendant 6 ans les noms, prénoms, numéros de téléphone, adresses des personnes mises en quarantaine. Des dispositions jugées inconstitutionnelles par des experts, mais pas de remous au sein de la population. Plus de 4 Polonais sur 5 accepteraient d'être mis en quarantaine, selon une étude de l'Université des sciences sociales de Varsovie. Le tribunal constitutionnel polonais n'a pas non plus émis d'avis négatif sur l'application, mais il est contrôlé par le pouvoir politique.
Les mois de mai et juin sont traditionnellement des mois d'examen pour les étudiants. Comment les organiser en limitant les risques de triche? Certaines universités en France auraient souhaité utiliser des logiciels spécialisés de télésurveillance, mais ce n'est pas du goût de tout le monde. Lise Verbeck.
Il y a quelques semaines, le ministère de l'Enseignement supérieur a transmis aux universités une liste, à titre indicatif, d'entreprises spécialisées dans la télésurveillance des examens. Celle-ci propose notamment des logiciels que l'étudiant installe sur son ordinateur. Cette surveillance, l'université de Rennes 1, en Bretagne, y aura recours. Erwan Allo, enseignant-chercheur et aussi vice-président en charge de la commission de la formation et de la vie universitaire.
Il s'agit de prendre des photos de manière aléatoire des étudiants en utilisant leur webcam. La seule chose qu'on souhaite vérifier, c'est que c'est bien l'étudiant lui-même qui compose. Donc un système de photos en fait aléatoire permet de vérifier ça de manière automatique en plus. Et puis on cherche à vérifier que les règles de l'examen, s'il y a des règles spécifiques qui ont été demandées, soient appliquées. Donc en fait, c'est les seules choses qui nous intéressent à travers cette télésurveillance. On a un règlement des examens, tout ce qu'il y a de plus standard. Et la difficulté, effectivement, c'est que d'habitude, il s'applique en présentiel. Donc là, il faut trouver des adaptations pour la mise en œuvre à distance.
Au départ, la fac de droit de Rennes envisageait un tel contrôle, mais elle a vite abandonné l'idée après l'opposition qu'elle a suscitée chez les étudiants. Cette télésurveillance ne concernera donc que 80 étudiants en gestion pour 5 examens. D'autres universités sont intéressées par ce dispositif à distance, mais aussi des grandes écoles, ce qui suscite une grande inquiétude, notamment concernant la protection des données pour Christophe Voileau, co-secrétaire général du syndicat national de l'enseignement supérieur.
Ce sont des dispositifs qui sont attentatoires aux libertés publiques dans la mesure où un certain nombre d'informations personnelles sont susceptibles d'être captées par les sociétés privées qui mettent en place ces logiciels. De plus, recourir à de tels dispositifs a un coût. Les sociétés, évidemment, ne fournissent pas gratuitement leurs services. Coût qui vient s'ajouter à d'autres dans cette période compliquée pour les universités et qui apparaissent comme des dépenses inutiles.
L'université Aix-Marseille a abandonné l'idée, notamment à cause du prix. Avant négociation, cela revenait à 10 euros par étudiant par heure d'examen. Rien que pour les premières années de licence, l'enveloppe se serait montée à 1,5 million d'euros. Une telle méthode, si elle est utilisée, va aussi engendrer un stress supplémentaire pour les étudiants, selon les syndicats qui les représentent, dans une période déjà compliquée. Malo Le Borgne, du syndicat solidaire.
On pense que notre vie, notre qualité d'études, nous étudiants et étudiantes, ne doit pas être négligée au profit de simplement la valeur de notre diplôme, etc. D'autant plus que ce n'est que pour quelques modalités d'examen et pour un seul semestre sur l'entièreté de notre parcours.
À l'Université de Lille, un recours a été déposé au tribunal administratif pour demander l'annulation des examens en ligne par le syndicat étudiant. Il pointe l'inégalité de ce système. Quant à la télésurveillance, elle est laissée à la libre appréciation des professeurs, selon Chloé Lebas, doctorante à Lille de Sud Éducation.
Alors, la télésurveillance des examens est possible à l'Université de Lille Apparemment, aucun collègue n'a choisi d'y avoir recours. C'est ce qu'on nous a dit. En fait, aujourd'hui, les enseignants ont une totale liberté. C'est un peu ça que prévoit le plan que nous, on conteste. Donc, tout est discrétionnaire, tout est individuel au niveau des enseignants. Et donc, ils peuvent avoir le choix d'avoir recours à n'importe quelle forme d'évaluation. Et l'université dit juste « on vous fait confiance ».
Dans une fac parisienne, un professeur d'anglais comptait organiser un examen en ayant accès à la webcam et aux messageries de ses élèves. Face aux réactions des étudiants qui ont notamment relayé cette information sur les réseaux sociaux, l'enseignant a fait marche arrière.
Et on terminera cette émission sur un tout autre sujet, un vrai vent de fraîcheur pour les Islandais qui ont retrouvé leur piscine publique après 2 mois de fermeture. Et ne croyez pas que c'est un détail, les piscines sont comme les cafés en France et en Italie, les pubs en Angleterre, de vrais lieux de sociabilisation à Reykjavik, Jérémy Richard.
Les cris des enfants s'amusant dans l'eau résonnent à nouveau à Laugardalslaug, la plus grande piscine d'Islande au cœur de la capitale Reykjavik. Les 4 jacuzzi d'eau chaude et les 3 grands bassins intérieurs et extérieurs viennent à peine de reprendre du service. Pendant près de 2 mois, les locaux ont été privés de leur rendez-vous quotidien. Hulda Pirkar donne des cours de natation aux écoliers.
Nous avons été élevés dans cette culture qui consiste à utiliser la piscine pour tellement de choses différentes que je crois que ces changements ont été difficiles pour beaucoup de gens. Par exemple, pour les personnes âgées qui font leur exercice en groupe chaque matin. Pour elles, ça a été difficile de ne pas pouvoir voir leurs amis ici tous les jours.
À 80 ans, Robert Spano vient tous les jours à Laugardalslaug avec sa femme pour qui il a quitté son Italie natale il y a un demi-siècle. Il nage d'abord 2 à 300 mètres avant de s'immerger dans le jacuzzi à 40 degrés pour discuter avec leurs amis pendant parfois une heure. Politique, sport et météo ont une place de choix dans leur conversation. Ancien entrepreneur désormais à la retraite, Robert explique quelle place a la piscine dans sa vie de tous les jours.
C'est notre façon de vivre en Islande. J'aime profiter de la piscine à l'extérieur. Qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il fasse froid, ce n'est pas un problème. J'aime ça, c'est très sain à mon âge.
Kristin Thorarinsson, 23 ans, est un grand espoir de la natation islandaise et vient pratiquer 2 fois par jour. S'il avoue avoir fait du vélo ou même courir pour continuer à faire du sport pendant la fermeture des bassins, rien ne remplace sa piscine bien-aimée.
Cela fait partie de ma vie depuis 20 ans maintenant, et s'il y a une chose qui m'a profondément manqué, c'est le contact avec l'eau. L'eau m'aide notamment à me vider l'esprit.
Pour les Islandais, les 134 piscines municipales et bassins d'eau chaude naturels disséminés aux 4 coins du pays sont autant un lieu d'exercice qu'un endroit de socialisation, explique la prof de natation Hulda Pirkar.
C'est une partie intégrante de la culture islandaise. On se retrouve ensemble dans la piscine pour se rencontrer, discuter et juste se relaxer après une dure journée de travail ou une bonne séance d'entraînement.
Cette pratique de bain public en Islande remonte au siècle dernier après que le pays a entamé par nécessité sa transition énergétique. Le coût du charbon et du pétrole utilisés pour se chauffer jusqu'au début du XXe siècle devenant trop onéreux, l'île décide de mettre à profit son abondante énergie géothermique. Et puis à la même époque, le pays transforme également son économie, alors centrée sur l'agriculture et mise sur la pêche. Problème, personne ne sait nager et le nombre de noyades en mer est considérable. Le gouvernement prend alors les choses à bras-le-corps et rend la natation obligatoire à l'école en 1940. Dès 6 ans, les enfants apprennent à nager plusieurs fois par semaine dans le cadre scolaire en faisant très tôt un passage obligé de la vie quotidienne. Avec le temps, les Islandais en ont fait une agora. Valdimar Hafstedt, professeur de folklore et d'ethnologie à l'Université d'Islande à Reykjavik.
Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, avec l'influx d'eau chaude dans tous les quartiers, le public même a transformé la piscine d'un endroit de discipline, un endroit de jeu, de plaisir et de convivialité de la vie sociale. Certes, on vient encore à la piscine pour y nager, pour se baigner, mais surtout, on y vient pour le plaisir de l'eau chaude, où on se raconte, on est parmi les autres.
L'Islande compte aujourd'hui une piscine pour 2700 habitants, même dans un village comme Flateri, dans les fjords de l'Ouest, avec ses 200 habitants seulement.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot et Laurie Plisson. Demain, on vous parle des nouvelles façons de travailler ou de télétravailler dans Accent d'Europe.